Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les principales informations. Panorama économique revient sur la situation qui a prévalu en début de semaine dans les stations-services dans l'est de la RDC, à Goma et Butembo d'un côté et à Kisangani en province orientale de l'autre. Les stations-services ont tourné au ralenti, cela suite au réajustement à la hausse de la taxe par les autorités. L'affaire de détournement de plus de 170 millions de francs congolais destinés à la prime des médecins est préoccupante. C'est le ministre de la Santé publique qui l'a dit cette semaine à Radio Okapi dans une interview. Félix Kabanginumbi se dit satisfait que son collègue de budget ait démantelé ce réseau de malfaiteurs. Les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, moteurs de l'innovation, c'est le thème des journées mondiales des télécommunications cette année. La RDC a également commémoré cette journée et l'UIT, l'Union internationale de télécommunications, a voulu par ce thème sensibiliser tous ses pays membres et acteurs du secteur à faire un état des lieux de la prise en compte de ces technologies dans les innovations multisectorielles. Analyser le rythme d'implémentation, leur appropriation par le plus grand nombre de la population. Voilà pour les titres. Les titres qui seront commentés et analysés par le professeur Godin Poi, il est également homme des dieux, il est pasteur. Avec lui, nous allons également parler de sa dernière publication consacrée au processus de transformation des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Le pasteur Godin Poi est au téléphone. Pasteur, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Le premier dossier de la semaine, les stations-services de Goma et Butembo n'ont pas fonctionné lundi 1er juin. Cette décision des pétroliers est la réponse à la hausse de la taxe au dédouanement opérée par les autorités. Pour éviter de vendre à perte, ils ont tout simplement décidé de ne pas ouvrir leur station. Je vous propose ce reportage de Freddy Bikumbi depuis Goma.
L'association des pétroliers du Nord Kivu, APENO, qui durcit les temps, elle fustige la décision du gouvernement congolais concernant la surtaxation des produits pétroliers au dédouanement, ce qui les met en difficulté d'approvisionnement à partir de l'extérieur du pays. Providence Muhiga, président de l'association des pétroliers du Nord Kivu.
Ce qui se passe depuis 6 jours, il y a une nouvelle structure de prix qui est sortie. Nous avons constaté qu'il y a eu une hausse de prix. Plus de 150%. Un camion qu'on dédouanait à 9 000 $ aujourd'hui pour 40 mètres cubes, nous sommes obligés de dédouaner cette même quantité à 26 000 $.
Les pétroliers ont constaté que la même quantité de carburant importé, soit 40 mètres cubes, est dédouanée à 6 000 $ américains à l'ouest du pays, alors qu'à l'est, il faut payer 26 000 $ américains. Une délégation des pétroliers de Bukavu est à Goma pour la même raison. Quant au ministre national de l'économie, il est attendu à Goma demain mardi où il devrait prendre langue avec les opérateurs économiques pour éviter la pénurie du carburant dans l'est du pays. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Voilà, c'était la situation qui a prévalu lundi à Goma et à Butembo dans le Nord Kivu. Cette grève a eu comme conséquence le transport en commun difficile et les quelques minibus qui étaient en circulation avaient carrément augmenté le prix de la course. Ainsi, la course de moto était passée de 500 à 1000 francs congolais parce que le prix du litre de carburant auprès des revendeurs était passé à 2000 francs alors qu'il est vendu à 1500 francs à la pompe. Arrêt de travail chez les pétroliers, il y en a également eu à Kisangani dans la province orientale. Les opérateurs qui importent des produits pétroliers à partir de l'est de la RDC ont fermé carrément leurs stations-service dans la ville en début de la semaine. Ici, ils ont manifesté contre l'augmentation de plus de 60% de la taxe d'importation des produits pétroliers due à l'État congolais. Et c'est Anselme Mansoua qui nous en dit un peu plus.
Selon le président des importateurs de ces produits, cette taxe est perçue par la Direction générale des douanes et assises de GDA et passée de 15 200 dollars américains à 25 400 dollars pour une citerne de 35 mètres cubes. Une augmentation non justifiée dans la nouvelle structure de la fiscalité des produits pétroliers, poursuit le président des importateurs. Tipe Tambwe invite le gouvernement congolais à revenir sur sa décision tablée sur deux poids deux mesures. Pendant que les importateurs de l'est du pays sont contraints de payer 25 400 dollars américains par 35 mètres cubes, dit-il, ceux de l'Ouest déboursent 7 600 dollars américains pour la même quantité. Pour le directeur provincial de la DGDA, contacté il y a peu, il s'agit là d'une mesure prise par le ministère congolais de l'économie. Lui, un simple exécutant des ordres de sa hiérarchie, n'a pas d'explication à fournir quant à cette augmentation, dit-il. Pendant ces temps, dans la ville, seules 4 stations-service dont les produits proviennent de Kinshasa sont en train de servir. Des files de véhicules et de motos sont observées devant ces stations. Chacun attend son tour pour être servi. Kisangani, on s'en met Maswa, Écho d'économie.
À Bounia, toujours en province orientale, une centaine de transporteurs et convoyeurs de camions citernes transportant des produits pétroliers ont barricadé mardi la route qui mène vers la frontière de Goli à Mahagi. Selon des sources locales, les manifestants protestaient contre l'arrestation de leurs véhicules depuis la semaine dernière par la Direction générale des douanes et accises pour non-paiement des frais de dédouanement de produits pétroliers conformément à la nouvelle structure des prix du ministère national de l'économie. Le député national de l'Ituri, Abdallah Penembaka, qui dénonce cette nouvelle structure de prix, dit ne pas comprendre ce changement de prix d'importation de carburant au milieu de l'année alors que le budget 2015 est déjà voté au Parlement et promulgué par le chef de l'État. Et aux dernières nouvelles, nous avons appris que le ministre a retiré sa proposition qui sera désormais harmonisée dans chaque zone d'activité. Et c'est la fin de ce premier dossier de la semaine. Le temps de retrouver au téléphone notre invité, le pasteur Godin Poi. Il est aussi professeur de la fiscalité. Professeur, bonjour. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis bien en ligne. Ma première réaction, c'est qu'il y a une certaine mise au point qu'il faut faire par rapport à la fiscalité pétrolière dans notre pays. Il ne s'agit pas, sur les plans principiels, d'une discrimination, mais les gens doivent savoir qu'en République démocratique du Congo, la fiscalité pétrolière varie selon les points d'approvisionnement.
D'une zone à une autre.
Oui, c'est ainsi que nous avons la région de l'Ouest, la région du Sud et enfin la région de l'Est. Et il se fait que la structure des prix est déterminée selon les prix moyens frontières, c'est-à-dire on se réfère d'abord du prix sur le plan international, on y ajoute les frais et d'autres frais additionnels tout en tenant compte des points d'introduction en République démocratique du Congo. Ce qui fait que la structure de prix varie selon les postes d'entrée. Donc ça, c'est une pratique qui s'est toujours faite. Mais s'il s'avère que la nouvelle structure de prix est à la base d'une surchauffe dans l'est de notre pays. Que je sache d'ailleurs, c'est qu'une délégation de Kinshasa se trouve déjà sur place de manière harmonisée. Donc, je crois qu'il y aura plus de peur que de mal. Et là où il faudra rectifier les tirs, le gouvernement sera obligé bien de le faire, étant donné que les produits pétroliers est une variable à effet propagateur par rapport à l'ensemble de l'économie nationale. Donc si les prix est sensiblement revus à la hausse à la pompe, il aura des effets propagateurs sur l'ensemble de l'économie et cela peut déboucher même sur la baisse de la demande globale. Je crois que la réaction était justifiée, mais le gouvernement a eu des raisons objectives qui l'avaient poussé à prendre cette nouvelle structure des prix. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est un dialogue entre la profession et le gouvernement pour trouver une fiscalité pétrolière qui ne soit pas économiciste. Par contre, nous avons besoin d'une fiscalité pétrolière développementaliste.
Ainsi, nous allons aborder le deuxième dossier de la semaine. La RDC, à l'instar des autres pays membres de l'Union internationale de la télécommunication, a célébré en ce 4 juin la journée mondiale des télécommunications. À Kinshasa, le ministre des PTNTIC a consacré 3 jours à cette célébration qui se clôture d'ailleurs ce soir avec un concert public à la place de l'Indépendance. Le thème retenu pour cette année, les télécommunications et les technologies de l'information de la communication, moteur de l'innovation. L'Union internationale des télécommunications a voulu, par ce thème, sensibiliser tous ses membres et acteurs du secteur à faire un état des lieux de la prise en compte de ces technologies dans les innovations multisectorielles, analyser leur rythme d'implémentation, leur appropriation par le plus grand nombre de la population, ce qui pourrait contribuer à rompre la fracture numérique. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'autorité de régulation des postes de télécommunication de la RDC. Il donne quelques pistes de réflexion aux panélistes.
Le régulateur lance néanmoins quelques réflexions sur ce thème central. Tout d'abord, sur l'intensité des innovations qu'apportent les TIC dans notre économie. En effet, il suffit pour mesurer cet impact des TIC dans la transformation de notre monde, d'imaginer le nombre incalculable de processus de création de valeurs et d'innovation auxquels sont associés le téléphone, le courrier électronique, le web et l'Internet. C'est le cas, bien entendu, des applications telles que le commerce électronique, la presse en ligne, le téléenseignement, la télémédecine, la banque en ligne, le mobile banking, la gouvernance électronique des États, etc., etc. Cependant, ces applications sont-elles suffisantes pour parler d'une réelle dynamique d'innovation pour notre économie, alors que dans la réalité, on observe plusieurs obstacles parmi lesquels l'absence ou du moins l'insuffisance encore criante des infrastructures à haut débit au sein de notre pays, une population rurale très peu impactée par les TIC dans ses activités quotidiennes, l'absence d'innovation dans les contenus et j'en passe.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine, la société civile de Bandé Gaïdo, en territoire de Mambasa en Ituri, dénonce l'exploitation illicite de l'or par les gardes du parc et les éléments FRDC dans la réserve à faune à Okapi. Selon son président, ces éléments utilisent les creuseurs qui travaillent pour leur compte dans les différents foyers miniers situés dans la réserve. Les autorités militaires de FRDC et le cadre de l'Institut congolais de conservation de la nature ICCN n'ont ni confirmé ni infirmé ces accusations. Le staff national de la MONUSCO a poursuivi cette semaine son sit-in de mercredi à vendredi, aussi bien à Kinshasa que dans certains sites de la mission onusienne à travers la RDC. Les travailleurs congolais continuent à réclamer à la MONUSCO, notamment les paiements des indemnités de fin de service aux agents en fin de contrat. Lors du sit-in similaire organisé la semaine dernière, le porte-parole de la MONUSCO avait dit que ce problème interne était en étude au niveau de l'administration. Cependant, une rencontre avec les deux parties vendredi dernier n'avait encore rien donné comme compromis et les revendications se poursuivent. Au Nord Kivu, sur plus de 40 produits touristiques disponibles dans le parc national de Virunga, seuls 4 sont actuellement proposés aux touristes. Il s'agit des gorilles de montagne, le volcan Nyiragongo, les chimpanzés de Rumangabo ainsi que le mont Rwenzori. Non seulement l'insécurité et le manque d'infrastructures appropriées sont à la base de la non-exploitation de plusieurs sites touristiques, mais aussi dans les 4 sites exploités, la maximisation des recettes est encore faible. Selon Ephrem Balolé, chargé des programmes au sein du parc de Virunga, au niveau de la chaîne touristique globale. Le Nord Kivu n'arrive même pas à obtenir 10% des revenus du flux touristique dans la région. Il l'a dit ce jeudi dans sa présentation sur l'état des lieux sur le tourisme au Forum économique du Nord Kivu. La question de la relance du tourisme sera analysée par les participants au Forum économique en groupe de travail afin de dégager des recommandations concrètes en vue d'améliorer ce secteur. Et voilà, nous allons prendre maintenant la dernière partie de notre émission. La dernière partie, je voulais annoncer au début, est consacrée à la dernière publication du professeur Godin Poyi, il est professeur de l'économie. Il venait de publier un ouvrage relatif au processus de transformation des entreprises publiques en République démocratique du Congo. J'espère que je ne suis pas trompé, professeur.
Oui, vous avez pleinement raison. Donc, l'intitulé de notre récente publication, c'est la Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques en République démocratique du Congo, analyse critique des enjeux politiques, économiques et sociaux. Au fait, notre réflexion s'arc-boute sur l'efficacité du réformisme de la Banque mondiale en Afrique, particulièrement dans notre pays. Nous avons voulu faire une lecture croisée, c'est-à-dire économico-politique, dans l'approche de l'école de Public Choice, qui commande aux économistes de prendre toujours la donne politique lorsqu'ils veulent prendre des décisions de management public. En fait, nous avons constaté que la voie du désengagement sur laquelle nous engage la Banque mondiale va faire en sorte que l'État puisse perdre un certain contrôle sur ses entreprises. Donc sur le plan économique, cela recèle suffisamment d'avantages parce que ces entreprises peuvent fonctionner comme étant des entreprises privées et partant devenir plus rentables. Mais la gestion d'un État est à la fois globale et totale. C'est ainsi que lorsqu'on fait des réformes, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Il ne faudra pas que les mesures économiques puissent avoir un impact négatif sur l'avenir de tout un État. Nous partons du constat que nous sommes un État post-conflit et partant fragile. En tant que tel, nous avons besoin de plus d'État et non de moins d'État. C'est ainsi que nous pensons que sur le plan politique, ces mesures renforcent la fragilité de notre pays et peuvent pousser facilement à la balkanisation de notre État, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande à l'État de se désengager de ces entreprises, si elles sont achetées par des multinationales, certainement que ça pourra encore entamer la souveraineté de notre État. Nous savons que les économistes ne peuvent pas comprendre les bien fondés de notre démarche, mais nous citons ici un exemple, le président américain Obama, qui lorsqu'il a vu qu'il y avait une crise qui sévissait dans le secteur automobile américain, mais il a dû intervenir dans la gestion de cette entreprise. Il y a une sorte d'étatisation. Mais comment, dans un État fragile, on peut croire que le désengagement est l'ultime voie par laquelle on doit passer pour rentabiliser nos entreprises? Nous nous inscrivons en faux contre ces démarches parce qu'en management public, il y a le principe de la contingence qui veut qu'on adapte les principes à l'environnement. S'il est vrai que les nouveaux managements public avec son corollaire, les partenariats publics-privés, peut être efficace à ce qui concerne les aspects économiques de la question, mais nous pensons que l'État est plus important que toutes ces réformes et qu'il y a lieu de reconsidérer ces désengagements pour l'adapter au contexte actuel de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous disons ceci, même si le plan économique. Quel est ce Congolais qui a la possibilité d'acheter l'électricité à sa vraie valeur si on privatisait ce secteur? Les gens doivent savoir dans notre pays que la planification économique fait et défait les rois. Je crois qu'il y a des secteurs dans lequel l'État ne doit pas se désengager pour le moment.
C'est lequel?
Et qu'il faut, oui, c'est notamment le secteur de l'électricité, par exemple, parce que ça va déboucher sur des remous terribles. Nous sommes d'accord que l'État se désengage dans le secteur des assurances, dans les secteurs de transport, mais il y a des secteurs stratégiques, notamment le secteur énergétique, qui constitue vraiment un cordon par rapport à la vie de la société et qu'on ne peut pas aujourd'hui demander aux consommateurs congolais qui n'ont presque pas de pouvoir d'achat d'acheter aujourd'hui l'électricité sans prévaler, ça peut nous conduire à des remous. C'est ainsi que nous avons estimé qu'il y a lieu de différer une partie de ces réformes pour les entreprises stratégiques. Ça peut fonctionner comme par le passé, parce que quel est en fait le problème? En management public, lorsque vous posez un diagnostic, il faut que la thérapeutique soit adaptée au diagnostic. Et tous les diagnostics qui ont été posés dans le secteur du portefeuille de notre pays révèlent que le problème crucial de ces entreprises, c'était la mégestion. Donc, au lieu de chercher les tatillons, les moutons à cinq pattes, c'est-à-dire les gestionnaires dignes qui peuvent revitaliser ces entreprises, tout de suite, on cherche à les désengager comme si le désengagement était la solution ultime.
Oui, professeur, mais je voulais vous poser une petite question, mais je sais que lorsque vous dites que demander à l'État de se désengager de ces entreprises n'est pas une bonne chose aujourd'hui, mais je sais que tous les financements qu'apporte la Banque mondiale en RDC, c'est suite à une demande du gouvernement congolais. C'est des projets que le gouvernement congolais présente, que la Banque mondiale finance. C'est que cette demande de réformer les entreprises était une demande du gouvernement congolais.
Merci beaucoup. Je crois que vous êtes un observateur averti de l'évolution du management dans notre pays. Il vous souviendra que de tous les appuis budgétaires promis au gouvernement, tous ne sont jamais tombés dans la caisse de l'État. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'elles déjà disent que si nous ne désengageons pas, où est-ce que nous allons trouver l'argent pour relancer les activités de ces entreprises? Mais la réponse est simple. Dès lors que les diagnostics posés renseignent que le vrai problème de notre pays, c'est dans le cadre de la gestion du portefeuille, du moins du portefeuille, cela veut dire tout simplement qu'il y a lieu de chercher à adapter la thérapeutique au diagnostic, c'est-à-dire remplacer les mandataires défaillants par ceux qui sont à même de faire quelque chose allant dans le sens de rentabiliser ces entreprises et soutenir les efforts du gouvernement. Donc, l'argent qui était détourné par les mandataires prédateurs, c'est cet argent qui servit au refinancement de ces entreprises. Parce que le problème, je l'ai dit, qu'il est à la fois total et global. Ça ne sert à rien de réformer les entreprises. L'État se désengage et à un certain moment, l'État va disparaître. Donc, autant mieux que l'État continue à exister et à mieux gérer les entreprises qu'elle a, que de disparaître au profit des entreprises. Et nous sommes dans un environnement, sur le plan international, des crises financières qui continuent. Les entreprises, on ne les vend pas dans les marchés de Gambela, les marchandises des entreprises sont cotées en bourse. Mais dans cet environnement maussade, sur le plan international, où est-ce qu'on va trouver les vrais acheteurs de ces entreprises qui peuvent les acheter à leur propre prix? La conséquence est que ces entreprises seront bradées, vendues à vil prix, et ça va accélérer le rythme de désintégration de notre État. C'est ainsi que nous pensons que les réformes telles qu'envisagées par la Banque mondiale ne doivent pas passer impérativement par les désengagements, parce que le problème de gestion de nos entreprises, c'est d'abord la mégestion. Ce sont ces mandataires prédateurs qui ne facilitent pas tâche au gouvernement qui déploie tant d'efforts pour revitaliser ces entreprises. Nous pensons que le problème, au stade actuel, la solution à moyen terme, c'est le remplacement des mandataires prédateurs par les tatillons.
Je ne sais pas, professeur, si dans votre ouvrage vous avez mentionné cet aspect des choses, ces mandataires qui ont détourné autrefois, mais vous avez suivi avec nous aussi ici à Kinshasa et à travers le pays qu'on avait organisé un test de sélection des mandataires pour les entreprises publiques. On a procédé à ce test de sélection, de recrutement, et c'est des gens présumés, sélectionnés, passés par un test national qui étaient des gens de confiance qui méritaient, mais en tout cas ça ne marche toujours pas.
Bon, le plus grand problème des tests, c'est d'abord le profil de ces genres de tests. Si ce sont des choses organisées de manière folklorique, évidemment, les membres du jury auront toujours la possibilité de faire passer les leurs qui ne répondent pas aux critères. Donc, aujourd'hui, quand on voit les résultats, on a l'intime conviction que ces tests
étaient
organisés de manière folklorique pour faire passer les siens. C'est-à-dire que si on veut organiser les tests rigoureux, il faudra qu'on puisse juger également aux résultats. Les tests ont été organisés, certes, mais le résultat, il est ce qu'il est, c'est ce qui nous pousse à croire que ces tests n'étaient pas objectifs. Et je voulais vous dire ceci, en management public, à un certain niveau de responsabilité, on n'a pas besoin de tests. Dans chaque État, chaque État a les répertoires des meilleurs enfants. Donc, on attend par meilleurs enfants les capitaux humains, c'est-à-dire les gens qui ont fait des études exigeantes, qui sont en bonne santé et qui détiennent suffisamment d'éthique. Et c'est ce que Gary Becker a appelé le capital humain.
Oui.
Dans chaque État, on dresse ce répertoire. C'est dans ce répertoire qu'on fuit et farfouit lorsqu'il faut relever les grands défis.
Et professeur, je pense que dans votre ouvrage, vous avez sûrement fait votre lecture de cette transformation, de ce processus, parce que, à ce que je sache, c'est la transformation juridique qui avait eu lieu pour la plupart. Ces entreprises sont devenues des sociétés commerciales, elles sont devenues ce qu'elles sont devenues, des services publics, des établissements publics. Et aujourd'hui, vous demandez à la Banque mondiale si elle pouvait renoncer à ce projet-là. Donc, est-ce que vous avez essayé de faire une lecture? Parce que après la transformation juridique, on attendait depuis 2-3 ans déjà la transformation économique pour déterminer les vrais patrimoines de ces entreprises, leurs vraies valeurs, ce qui n'arrive pas. Est-ce que vous avez essayé de faire une lecture par rapport à cet état de choses?
Naturellement, le drame avec la Banque mondiale, c'est qu'elle adore la modification robotique des tests, oubliant que entre les managements et les droits, il y a un écart, et que ce n'est pas cette modification robotique qui va nous conduire à l'efficacité. Je vous ai dit qu'en management, il y a la loi de la contingence qui veut qu'on puisse adapter les principes à l'environnement. Et la Banque mondiale a les mêmes logiciels qu'elle cherche à appliquer dans tous les pays du monde. Ça, toute la difficulté. Et c'est ça la raison de l'inefficacité de ces réformes, notamment en Afrique. Donc, ce que je veux dire, c'est que je prends en compte cet aspect des choses, et ce que je veux relever, c'est que la Banque mondiale doit apprendre à adapter ces réformes à l'environnement. Je peux te donner un exemple. Lorsque nous sommes dans les années 70, là, nous sommes dans le contexte de politique d'ajustement structurel. La Banque mondiale proposait aux États d'Afrique l'assainissement. Donc, pour la Banque mondiale, il fallait tout de suite chercher des gens de l'administration publique. Mais quand ils sont arrivés en France, ils ont été invités à une difficulté. Les gouvernements français leur avaient dit que ce n'était pas possible. Donc, qu'est-ce que le gouvernement français avait fait? Il avait bien accepté de décongestionner ses effectifs, mais on avait trouvé une stratégie qui consistait à bien gérer les retraites et ne plus procéder au recrutement. C'est de cette façon-là qu'on a dû éponger les sur-effectifs dans les secteurs publics français. Mais quand on vient en Afrique, on veut tout de suite qu'on mette les gens dehors au motif que c'est les sur-effectifs qui posent le problème. Mais lorsque vous mettez ces gens-là dehors, ça va créer encore un problème.
Je voudrais insister
ici qu'en gouvernance des États, il y a une différence qu'il faut faire entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Une décision mal prise peut ne pas résoudre un problème et créer des problèmes plus graves que celui qu'on cherchait à résoudre. Donc, avec tout le respect que j'ai envers la Banque mondiale, je constate que cette réforme était quand même inopportune et inadapté à l'environnement congolais. D'ailleurs, la preuve en est qu'aujourd'hui, donc de 2 minutes à ce jour, ça fait 7 ans, ces entreprises ont le même temps. Lorsque vous faites la lecture budgétaire de notre pays, les rapports n'est toujours pas
budget n'est nul. Ok, oui, ça c'est vrai.
Donc, on ne fait pas des réformes par plaisir de les faire. On fait des réformes pour résoudre les problèmes qui se posent dans une société. Encore une fois de plus, je l'ai dit haut et fort que la Banque mondiale doit apprendre à adapter ses réformes à l'environnement. Sinon, son réformisme va se transformer en une réformette.
Alors, professeur, sans bien vouloir me transformer en votre agent publicitaire, je voudrais quand même savoir, il coûte combien votre ouvrage, on peut le trouver à quel endroit, vous le distribuez où?
Non, le livre coûte $50. À Paris, il est distribué chez l'Armada. Ici, à Kinshasa, vous pouvez le trouver dans la librairie des Grands Lacs sur boulevard du 30 juin. Vous pouvez le trouver dans toute boutique Pelustore. Vous pouvez le trouver au Grand Hôtel Kinshasa. Vous pouvez le trouver à l'Hôtel Memling. Et au demeurant, si quelqu'un veut entrer en possession de ces livres, je peux vous demander de devenir notre prochain point de vente. Tous ceux qui passeront par vous peuvent se l'approvisionner.
Bien volontiers, professeur et pasteur. Merci d'avoir accepté à la dernière minute cette invitation et merci d'avoir analysé avec nous l'actualité de la semaine. Merci beaucoup et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites. Vous savez que j'ai toujours aimé de vous parler en face.
Oui,
mais
oui.
Aujourd'hui, vous m'avez pris
au téléphone, vraiment.
Et j'espère qu'après cet entretien, nous aurons quelques minutes pour nous rencontrer et échanger ensemble. Encore une fois de plus, merci à vous, merci à toute la radio.
Merci beaucoup, professeur, et merci à vous, chers auditeurs. Pour ce moment passé ensemble, c'est la fin de Panorama économique. Retrouvez-la sur www.radiookapi.net.